Est-ce que avec ma voix ça va, tout le monde entend bien? Je vais lire le texte que j'ai préparé parce que je ne suis pas très à l'aise pour l'impro. Ce soir, nous accueillons Ezra Sibyl Benisti, Jess Rivière et Luce Falkman. Avant de les présenter, je vais dire quelques mots sur la soirée. Je vais donner quelques informations pratiques précises pour que vous sachiez à quoi vous attendre. On va commencer par une lecture de Joyce Rivière qui va durer environ 10 minutes. Ensuite, la lecture sera suivie d'une performance de Ezra Sibyl Benisti qui dure environ une demi-heure. Après, on fera une pause de 10 minutes et puis on finira avec une lecture de Luce Falkman qui durera également une dizaine de minutes. La soirée, elle va être enregistrée. Le bar est là avec des boissons prix libre, bière et soft. Et les toilettes sont après la cuisine au fond. Faut pas hésiter à se lever si vous avez besoin pendant la soirée. Il n'y a pas de problème que les gens bougent un peu. Après la soirée, il y aura un repas prix libre autour des 20h30. Notre première invitée est l'artiste Ezra Sibyl Benisti. Elle a été publiée dans l'ouvrage collectif Cuisson au feu de bois, paru chez Paulette et Tetris. Depuis 2 ans, Ezra travaille sur un cycle de 3 performances qui s'est conclu en mai de cette année. Dans ses performances, Yael aborde les thèmes de la filiation, du déracinement, de la multiplicité des identités dans un contexte de violence intrafamiliale. Ce soir, Yael nous présente le second volet de ce cycle, qui s'appelle « Faire l'équilibre ». Jess Rivière est écrivaine et poète trans-butch. Le 22 septembre paraîtra son dernier recueil, « Votre monde en cendres », aux éditions Blast. Vous pouvez également trouver des extraits de son travail dans le premier numéro de l'anthologie Transfemme, publiée aux éditions Grillage et qui vient de sortir. Elle fait partie d'un collectif d'éditions autogérées qui s'appelle How to Become. Elle va vous en dire quelques mots tout à l'heure. Elle a publié au travers de ce collectif le recueil Neo-Chat et elle a participé à l'avant-dernier numéro qui s'appelle How to Become a Motherfucking Elegist avec le poème Dirty Fleur Bleue. Notre troisième invitée est l'autrice et poétesse Luce Falkman. Luce a également participé au premier numéro de l'anthologie Transfemme qui s'appelle « Écrire pour l'essor » avec le texte « Le refrain » qui clôt l'ouvrage. Ce texte a également été publié dans une auto-édition en collaboration avec Vinciane Mandrin. Avant ça, elle a écrit deux livres « Aller la rivière » en 2021 et « Les champs du placard » en 2020, tous deux édités par Blast. Elle est en train d'écrire son premier roman. Les livres que j'ai mentionnés sont disponibles sur une table dédiée à cette soirée qui est dans la librairie. Et j'aimerais dire un grand merci à Luce Falkman, Joyce Rivière et Ezra Sibyl Benisti pour leur présence parmi nous ce soir et pour leur travail. Et avant de commencer, j'aimerais lire un texte que j'ai écrit au sujet de, du procès qui est l'issue du procès qui a eu lieu hier. Et je vais donner un peu du contexte. En mars 2021, devant le tribunal de Renan, l'assassin de Hervé Mandundu sortait libre et dédommagé à hauteur de 30 000 francs. Entre le temps où il a tué un homme et celui où l'acquittement a été prononcé, 5 ans se sont écoulés. Pendant ces années-là, le meurtrier n'a jamais cessé d'être en fonction au sein de la police. Il a même été promu. Pendant ces années-là, Lamine Fati est mort dans une cellule suite à une violente interpellation en 2017. Et Mike Benpeter a été assassiné quelques mois plus tard par 6 hommes qui ont fait de ces derniers instants une agonie dont le récit est glaçant. 5 mois après l'acquittement du meurtrier de Hervé, Enzoï a été tué par balle à la gare de Morges. Le point commun entre ces 4 personnes est qu'ils étaient noirs et la profession de leur assassin, tous des flics. Mike Benpeter est mort en 2018, Encore une fois, la famille a dû attendre 5 années pour que le procès ait lieu. Le verdict a été rendu hier après-midi. Hier après-midi, au tribunal de Renan, à quelques pas d'ici, les 6 assassins de Mike Benpeter ont été acquittés. Le procureur a décidé au 4e jour d'abandonner les charges retenues contre eux. C'est sans aucune surprise qu'une fois encore, le tribunal s'est rangé du côté du ministère public et des prévenus, après une enquête bâclée et le refus d'entrer en matière sur toutes les réquisitions amenées par Maître Enta, l'avocat de la famille de Mike. Dans les jours qui suivent, la famille de Mike, sa veuve, son frère, vont devoir prendre une décision difficile, celle de se lancer ou non dans un recours au tribunal fédéral qui coûterait des dizaines de milliers de francs. J'invite les personnes ici présentes à être alertes aux appels à soutien qui vont survenir les prochains mois. Je vous invite à suivre les activités du collectif Kiboko à Lausanne et du collectif Outrage qui font énormément de travail de soutien auprès de la famille de Mike. Je vous invite à ne pas attendre les appels à soutien et à baigner la famille de Mike dans la thune, à défaut de pouvoir leur rendre leur père, leur frère, leur mari. Je vous invite à honorer la mémoire de ceux qui ont été arrachés à la vie, à leurs amis, à leurs amours, à leur famille, à leur communauté, par l'État raciste, sa police et sa justice. Puissent-ils reposer en paix, puissions-nous nous rappeler longtemps de leurs noms. Nzoy, Mike Benpeter, Lamine Fati, Hervé Mandoundou. Je vous invite aussi à ne pas attendre que les gens meurent pour vous mobiliser. Rappelons-nous qu'il y a des gens en vie qui subissent les assauts répétés de l'État quotidiennement. Les adultes et les enfants enfermés dans les centres fédéraux. Les enfants qu'on appelle mineurs non accompagnés et qui ces dernières années se suicident à la chaîne dans les soi-disant centres d'accueil genevois à cause du harcèlement raciste des autorités. Les milliers de personnes qui se retrouvent prisonnières dans les centres de détention et les prisons suisses dans l'indifférence générale. Je vais maintenant citer quelques noms de collectifs qui luttent contre le suprémacisme blanc et le racisme d'État en Suisse. À Lausanne, il y a le collectif Kiboko, le collectif Jean Dutoit. À Genève, Parlons Prison, La Prison Tue, Lutte des MNA. En Romandie, Outrage Collectif, Afro-Suisse, À qui le tour. Et en Suisse allemande, Alliance Against Racial Profiling, No More Committee Basel. C'est pas du tout une liste exhaustive, si jamais. Merci beaucoup et je vais laisser la parole à Jasmine.
Alors bonsoir. Alors d'abord, j'aimerais remercier les Médusales de m'avoir invité. Comme il a été dit, je fais partie d'un collectif d'écrivains Gwyns qui s'appelle How to Become. Et notre revue prochaine sortira en automne. Pour ce faire, on a encore besoin de thunes. Il nous manque à peu près 1000 euros. C'est beaucoup, je sais. La prochaine revue va être grave ouf. On a une graphiste qui est sur le coup. Le sujet, il est brûlant. C'est sur le cruising et les vampires lesbiennes. Genre, s'il vous plaît, donnez de l'argent. Et l'Instagram, c'est how, comme en anglais how, to, T-O-U-T, become. Voilà. Et s'il vous plaît. Comme ça, vous lirez un super texte de moi sur le fistfucking. Vous allez adorer. Voilà. Maintenant, je vais lire un texte. Et pour le coup, je vais quand même annoncer un trigger warning, même si genre la thématique, c'est maman, du coup, voilà. Pour le coup, c'est un trigger warning sur l'inceste. C'est une ref, c'est un truc, mais genre pour les personnes qui sont vraiment sensibles, n'hésitez pas à sortir ou quoi. Voilà. Du coup, c'est parti. Ton silence ronge mes heures, dévore mes espoirs de m'en sortir. Ton silence me brûle les mains. Ton silence ferme les histoires. Ton silence m'empêche de flotter en dehors des catégories. Pourquoi votre mère ne vous parle plus? Parce que je suis trans. J'ai sué minuit sur la terre glacée pour m'aménager un lieu loin de tes pieds qui me refusent. Je muse à comprendre ton silence qui envoûte mes mortes trop nombreuses. Je creuse dans la forêt ma propre tombe pour répondre à ton désir de me voir déjà morte, faire le deuil de ton fils de pacotille, celui que tu trouvais laid. Et je suis belle aujourd'hui, maman. Si tu me voyais défier les étoiles, tu me parlerais de ton plus beau foulard. J'étouffe dans l'œuf la transmission que tu voulais, tant dans les nuits où je n'étais pas là. Et je suis belle aujourd'hui, maman, sans toi pour en juger, pour donner contour à mes qualifications. Je jette ton silence dans l'eau je jette ton silence, et je prie, je pisserai sur ma tombe, maman. Mon utopie serait qu'on parte en voiture, que tu rencontres une butch qui saura prendre soin de toi. Mon utopie serait qu'on chasse les démons qui ont hanté nos enfances. Mon utopie serait que tu me tiennes la main après le passage du chirurgien. Mais le ciel est vide, et demain reste demain. Ton Jésus reste cloué comme un pantin triste. Ta Bible suinte la haine du prochain, et les cailloux en réserve pour tuer. Mais le ciel est vide, et plein de promesses pour toi. Le mien est plein de pluie, et mes yeux s'arrachent au crime de ne pas être aimé. Ton Jésus fait des saluts nazis, et tu acquiesces. Souviens-toi du couteau, brandi pour les séparations, de ma chair impropre au divin, objet sans permanence qui défiait tes orages. Ton cri déchiré repose sous les verrous de tes peurs, abrité par tes ronflements. Je suis un avortement manqué, le brouillon que tu n'as pas voulu. Je suis ta sortie de la famille abusive pour une robe de mariée, cousue sur des poches qu'on regrette. Fœtus fêtu de paille, je m'envole. Papa sourit sur la photo. Il efface tes inquiétudes. Il étouffe tes possibles. Le berceau encadre tes jours et griffe tes étoiles mortes. Maman entasse le linge sur la table du salon. Maman repasse. La moustache de Paul Newman est parfaite. Maman prie dans l'église. Elle pousse des glossolalies. « Mort au PD !» crie-t-elle dans une langue inventée. Maman nous parle de films d'horreur pour que je pisse au lit, et de la fois où papy l'a caressé et que sa mère l'a foutu dehors. Maman a peur. Son cerveau branché sur Coca-Cola et le salami rêve d'une fin du monde proche. Elle désire l'enlèvement et les bêtes à plusieurs têtes et l'effondrement de Babylone et une maison sans poussière. Je voulais être une Claudette, danser sur des pistes de jaspe. Je voulais chanter, danser à en crever des ciels, mais ce sont des vergetures, des postpartum, nettoyer la merde, maculer de petits pois des vieux qui me restent. Quel est le sens? Qui est là pour m'écouter? Mon rein manquant, ma maladie auto-immune, et Dieu qui ne me répond pas malgré tous les SMS que j'ai pu lui envoyer. Le silence de l'amant de l'église est lourd l'air pollué par la décadence, est lourd l'air de tous ces livres qui taisent l'écriture que j'ai avalé à coups de miel. Je voudrais que ce monde brûle au son de mes hosannas. Je suis désolé. Pour toi, je n'ai qu'un livre de ma mère inversé. Aucun souvenir qui fusionnerait nos peaux. Aucune envie de retourner dans la tienne. Jumelle de moi-même, je m'aspire à la lie de mon humanité. J'avais vu le visage de Sigourney Weaver dans le miroir des damnations, cogné contre mon ventre, plein de ta présence. C'est d'une alien que j'accoucherai, mon corps en lévitation, prête à recevoir le pain azyme, je me signe de tes possessions. Dans tes amours, tu te plaindras. Dans tes amours, tu chercheras à tout reproduire, à rejouer la scène de mes mutismes, mes tiédeurs et l'impossible. Tu te croiras maudite. Je ne peux rien te dire. Dans une autre vie, j'aurais été Gwyn. Dans le carton de ma mère, il y a le rouge et le noir de Stendhal, Il y a l'attention de Alberto Moravia, des photos de son sourire, il y a sa crête d'adolescence et un vinyle de Mylène Farmer. Il y a mes mensonges, il y a les siens, il y a ses illusions. Bovary ratée, elle verse dans ma bouche le poison de ses jours. Ma douleur parle de toi, des cauchemars apaisés par ta présence quand tout était plus simple. Ma douleur parle d'il était une fois qui n'a jamais été, où tu m'aurais prise dans tes bras contre les rumeurs de la nuit qui murmuraient leur rire au fond du placard pour que je tombe. Tous les péchés auraient été absous puisque je n'aurais jamais vécu. Sa main saisit la seringue. Sa main aspire le liquide. Sa main trace un point invisible sur la peau. Sa main pique. Sa main pousse. Le liquide réchauffe. Sa main nettoie. Sa main annonce que c'est fini. Sa main soulève les rideaux. Les projecteurs sont prêts. L'écran défile les paroles pour l'apparition de la nouvelle maman, la maman testostérone. Merci.
J'ai 5 ans. Je dis que j'ai 5 ans parce que je sais que quand j'apprends à faire du vélo, ma mère n'est pas encore tombée malade. Je n'ai pas encore fêté mes 6 ans. Je ne pense pas en avoir 4. Ça me paraît trop petit. Donc aujourd'hui, en toute logique, j'ai 5 ans. Les oiseaux se sont mis à chanter. Depuis mon lit, je regarde la lumière du soleil qui grimpe. Derrière les arbres, elle ronge petit à petit le ciel encore noir de la nuit. Comme chaque matin, il y a la fumée de cette même cheminée au loin. Je pense toujours à ces sorcières devant leur chaudron qui préparent des potions ou qui s'apprêtent à faire mijoter des enfants comme dans Hocus Pocus. J'entends ma mère se préparer. Elle est toujours la première debout dans la maison. Elle commence la journée comme toutes les autres, avec une cigarette et un café, assise dans son fauteuil, au salon. Elle profite du calme. Elle fume, mais elle dit qu'elle peut arrêter à tout moment. Mais oui, à tout moment. Si je veux, j'arrête. Ça y est, demain, c'est fini. J'attends un peu avant de me lever. J'ai hâte. C'est décidé. Cette fois, j'apprends à faire du vélo. Je dis cette fois parce que j'ai fait une première tentative il y a quelques jours. Tout de suite, j'ai voulu dévaler la pente bétonnée du garage dans l'espoir que la vitesse me force à comprendre comment faire, comme ces parents qui balancent leurs enfants à l'eau pour leur apprendre à nager. C'est dans la descente que j'ai réalisé qu'il n'y avait pas de frein sur mon guidon. J'ai pas eu le temps de voir venir la porte, j'ai perdu un bout de dent, gagné une cicatrice qui plus tard se noiera dans ma moustache. Mon père me criait dessus, et moi je plaidais ma cause dans ma tête. Pédaler à l'envers pour freiner? Mais ça n'a aucun sens. J'ai fait une pause de quelques jours après l'accident, mais cette fois, coûte que coûte, j'apprends. Le temps de sortir de la maison, Le soleil a éclairci le bleu du ciel. Je ne comprends pas d'où viennent les teintes pêche et rose, mais elles me font sourire. À cette heure-ci, les couleurs sont pâles et l'air est encore froid dans mes poumons. Je me tiens à côté de mon vélo, je me prépare, je fronce les sourcils pour mieux me concentrer. Ok, c'est parti. Je cours aussi vite que possible, je chevauche avec maladresse l'engin qui vacille, le guidon se retourne et je m'écrase au sol. Je me relève, je réessaie, je m'écrase. Je me relève, j'essuie la poussière sur ma joue du revers de la main et je réessaie. Pour m'encourager, je descends voir ma mère à la buanderie. J'y suis presque. Ce n'est pas vrai, mais je cherche à ce qu'elle me félicite. Entre deux coups de vapeur, après avoir suspendu à un cintre la chemise qu'elle vient de repasser, elle plonge sa main dans la corbeille à linge, une sorte de puits enchanté qui déborde de trois couleurs, bleu, rose pastel, blanc. Toutes les chemises appartiennent à mon père. Celle qu'elle attrape au hasard est rose. Elle l'étend sur la planche qu'elle ne quitte pas des yeux. Ne t'éloigne pas de la maison. Attention aux voitures. Je traduis ça par « Bravo, continue comme ça. Je suis certaine que tu vas y arriver. » Alors je remonte les escaliers, deux à deux, le vélo, je cours, j'enfourche, je tombe. Jusqu'au moment où je pédale assez vite. Une excitation aiguë monte dans ma poitrine. Mes poumons se remplissent, le guidon tente de reprendre le dessus, je l'empoigne fermement. Je pédale, j'entends l'engrenage du vélo transformer mes efforts en légèreté. Je roule et mon corps n'en revient pas. J'ai l'impression d'avoir des super pouvoirs, d'être une sorcière sur son balai. Je fais des bruits de vaisseau spatial. Je pense que rien ne peut m'arrêter quand j'aperçois du coin de l'œil. Comme dans ces scènes au ralenti, le pot d'hortensia touffu. C'est l'une des frontières qui délimite la zone autorisée. Le pot de fleurs d'un côté, le dos d'âne de l'autre côté de la maison. J'ai arrêté de pédaler, je tourne pour faire demi-tour et risque la chute parce que je penche trop. Je penche un peu de l'autre côté, j'évite à tout prix de mettre le pied à terre. Je me remets à pédaler. Dans la décélération, mes muscles redécouvrent péniblement le poids de mon corps. Je me force à revivre l'expérience. Je persévère dans mes allers-retours. Je mets un temps à m'habituer. Je transforme les ralentissements inévitables en portails magiques. J'imagine qu'ils sont des passages vers d'autres mondes. Et c'est là l'une des choses les plus utiles que j'ai apprises. Tourner en rond sans se perdre, pour survivre dans les limites de la maison, il faut s'inventer un ailleurs. J'entends siffler derrière les laurels que mon père a juré de tailler bientôt. C'est ma mère qui me rappelle à la maison. Cette mélodie, brève, distincte, c'est celle que ma grand-mère sifflait pour l'appeler, elle aussi. T'étais où? Tu sais, avec Baka, nous, on était là tout de suite. Sinon, c'était la fessée, avec la spatule en bois. Allez, va te laver les mains, c'est déjà midi. On passe à table. Si tu veux, on ira promener le chien. haut dans le ciel, le soleil est un trou blanc dans une toile azurée. J'enfourche mon vélo sous la chaleur, je longe les champs, le gravier tremble sous mes pneus, les arbres se succèdent, l'air souffle dans mes oreilles, dans les feuilles, dans les arbres, l'horizon remplace l'horizon au fur et à mesure que les nuages patinent sur fond blanc, les cloches au cou des vaches retentissent au loin, les aboiements du chien, je pédale plus fort quand soudain la voix de ma mère dans mon dos me freine. Je fais demi-tour, je la vois accélérer le pas pour me rejoindre, les pans de sa robe rose et jaune la suivent, une main sur son chapeau de paille, elle tente de parler fort par-dessus les bruits du vent. « Attends-moi !»« Mais attends-moi !»« Tu vas quand même pas partir sans moi !»« Tu sais, moi aussi j'aimerais faire du vélo. »« J'ai toujours voulu en faire. »« Maintenant que tu sais faire, tu m'apprendras ?» J'ai vite compris que, dans son enfance en Croatie, comme moi, ma mère rêvait d'un ailleurs. Elle enviait les touristes qui traversaient le village à vélo. Ils apparaissaient au bout du chemin, passaient devant la terrasse ou baka, qui veut dire grand-mère en croate, suspendaient le linge. Les touristes la saluaient de la main, puis disparaissaient au loin, pour toujours. Plus tard, ce sont les couples en escapade qu'elle a enviés. Les collègues après le boulot, les copines qui s'échappaient des villes en solitaire, une bière et un livre calés dans un panier en osier, à l'avant du vélo. Elle les enviait, et pourtant, elle n'a jamais appris. Ni en Croatie, ni en Suisse pendant ses premières années de travail, ni après son mariage. Elle n'en a jamais parlé à mon frère, mais moi, elle me l'a répété tant de fois. J'ai toujours voulu faire du vélo. Avoir la possibilité de partir loin et vite, sans rien emporter avec moi. J'ai toujours voulu faire du vélo. Quand tu sauras en faire, tu m'apprendras. Je sais qu'elle n'a jamais demandé à mon frère parce qu'elle ne supporterait pas sa réaction. Comment ça, tu veux partir? Sans rien? Sans nous? Je sais parce qu'elle me l'a expliqué un jour en essuyant le sang dans mon dos. Mon frère m'avait mordu si fort, ses petites dents avaient transpercé ma peau et étaient venues se loger jusque dans ma chair. J'avais beau crier, repousser son visage que j'écrasais de ma main, il ne desserrait pas la mâchoire. J'avais attendu qu'il se lasse, qu'autre chose attire son attention, qu'il me laisse partir. Dans la salle de bain, j'avais pris le tabouret en bois, puis la bétadine dans la pharmacie et les cotons que ma mère utilisait pour se démaquiller, mais je n'arrivais pas à voir la plaie sur mon omoplate. De l'iode plein les doigts, j'avais quand même fini par demander à ma mère. C'est pas facile pour lui, ton frère. Il a besoin de sa maman. Il ferait quoi sans moi? Toi, tu sais faire. Tu sais te débrouiller. Et heureusement parce que moi, je ferais quoi sans toi? Toi, je peux compter sur toi. Et tu sais, je fais de mon mieux. Je suis convaincu qu'avec ma mère, même si on ne se l'avoue pas, on partage cette envie de quitter tout ce qui nous rattache à la maison. Alors, quand elle me demande, à bout de souffle dans sa robe rose et jaune, maintenant que tu sais faire, tu m'apprendras. Je trépigne à l'idée de lui montrer. Enfin, elle va pouvoir partir, où elle veut, quand elle veut. Alors je me lance. Je lui dis que oui, Je nous imagine déjà rouler dans la campagne, rire, faire la course, longer les champs, nous réjouir de n'avoir aucun repère. J'ai tout prévu. On prendra le vélo de mon frère, celui qu'il n'a jamais utilisé. Elle apprendra et on s'échappera ensemble. Ma mère commence par dire « D'accord », avant d'ajouter mécaniquement « Mais... » Que vont penser les autres ? Il me semble que c'est la phrase qu'elle a le plus répétée en ma présence. Celle-ci est « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu ? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Toujours, depuis que je la connais, le regard des autres la hante. Pourtant, j'en ai vu des photos d'elle, insouciante, légère au volant de sa décapotable rouge pétant, les cheveux très courts au milieu de la place Saint-Marc, agenouillée dans un immense manteau de velours jaune, la main tendue aux dizaines de pigeons qui l'entourent, à la plage, de grosses lunettes, soleil sur les yeux, assise dans l'herbe à côté d'un pique-nique, une bouteille à la main, dans son premier appartement, les bras levés et le corps déhanché dans une robe à sequins. Sur une cassette de vacances, je la découvre en train de se doucher sous un tuyau d'arrosoir, au fond d'un jardin, avec mon père. Dans le film tourné en Super 8, elle tire la langue à son beau-frère qui tient la caméra. Elle baisse la culotte de son maillot de bain, elle dandine ses fesses nues, elle se redresse, éclate de rire et moi avec en voyant la scène. J'adore repenser à ce souvenir qui n'est pas le mien, de cette personne qui n'était pas encore maman et que j'ai l'impression de ne jamais avoir connue. Cette personne, elle est infirmière, elle travaille d'arrache-pied, elle est la cadette de sa famille, comme moi, comme mon père, et elle se sent étrangère, ici et dans son pays natal. Elle est brune, mais blonde depuis tellement longtemps qu'elle est blonde, blonde cendrée, elle dirait. Elle est téméraire, loyale selon l'humeur, autoritaire, travailleuse, drôle, sournoise, traumatisée, médisante, méchante, injuste, infiniment généreuse à ses dépens, bien sapée. Et il n'y a pas d'entre-deux chez elle. Elle est soit profondément triste, épuisée, détruite, soit extrêmement heureuse. Dans ma tête, en tout cas. Je dis dans ma tête parce que je me rappelle pas exactement, mais je l'entends rire aux éclats. Peut-être que j'invente. Je dis que j'invente parce que vraiment j'ai du mal à me rappeler de ma mère heureuse. Tout ce qui me vient, c'est un nouvel an où, passé minuit, tout le monde fatiguait, alors que ma mère continuait à danser dans le salon. Le lecteur vinyle tournait, tournait, Dalida chantait, et ma mère aussi disait « Laissez-moi danser ». Elle était venue nous chercher dans la salle à manger. À tour de rôle, elle nous avait tendu la main, tiré par le bras, loin des assiettes empilées, des verres de vin, des coupes de champagne vides. Tout le monde avait rejoint la file dansante, même mon père. On s'attrapait par les hanches, chantait en liberté tout l'été, et ma mère riait tellement fort, irrécupérable, elle se tenait les côtes, et avec Dalida, elle demandait à ce qu'on la laisse, à ce qu'on la laisse, à ce qu'on la laisse aller jusqu'au bout du rêve. Elle a dit d'accord. Je décide d'ignorer le reste de sa phrase. Elle a dit d'accord. J'ai tourné les talons au pas de course. Je longe la maison, descends vers le garage, déverrouille l'immense porte carrée au bois partiellement pourri par la pluie. Il faut tourner la poignée et tirer vers soi, soulever la porte, puis la soulever encore avec suffisamment de force pour la propulser. Elle glisse dans son rail, parallèle au plafond. De ma petite taille, je me contente d'ouvrir un espace sous la porte, juste assez pour me glisser de l'autre côté, dans le garage. Je ne cherche pas non plus à trouver la corde qui allumerait l'ampoule, c'est trop haut. Je me contente de la pénombre, où la porosité du béton, l'humidité, l'essence se logent dans mes narines. Quand on me demande d'aller chercher une bouteille de gazeuse ou des cornichons à la cave, qui respirent aussi le béton et l'humide, même si j'ai peur d'y aller seul, j'y reste debout. Longtemps. avec mes bocaux de sauce tomate, mes pots de confiture ou mes pommes de terre à bout de bras. Et j'inspire profondément, les yeux clos. J'ai trouvé le vélo. Il faut juste regonfler les pneus. Je tire le guidon, la roue, le garage est plein à craquer d'affaires en tout genre. Tondeuse, carton de paperasse, boîte à outils, machine à souder, arrosoir. Tout est poussiéreux, à moitié vide, collant, froid, entremêlé. C'est comme si les objets s'étaient agglutinés ensemble, avaient fusionné en une masse devenue difficilement séparable. Je tire encore sur le vélo, donne des à-coups que je pense stratégiques. Les objets qui le retiennent se cognent les uns aux autres, font de petits bruits. On dirait qu'ils se parlent. Ils finissent par lâcher prise. Je les remercie en pensant à ces dessins animés de Miyazaki, dans lesquels de petites créatures occupent les recoins oubliés par les humains. Je passe le vélo sous la porte du garage. Le soleil m'aveugle quelques secondes. Quand ma mère se décide enfin à sortir de la maison, la lumière a déjà entamé la descente. C'est l'heure où l'asphalte relâche la chaleur accumulée dès l'aurore. Il n'y a plus personne dehors. On ne risque pas de la voir. Elle s'est installée sur la selle en poussant un petit cri de peur et de joie. Elle a posé un pied sur la pédale droite, le gauche est à terre. Elle s'avance pour attraper le guidon, son dos s'arrondit, elle se cramponne alors que ça n'a même pas encore commencé. Ses yeux sont rivés sur moi, comme pour dire « Et maintenant, on fait quoi ?» Les miens quittent son visage, l'invitent à regarder devant elle. Je fixe l'horizon déformé par l'air chaud, là où il m'est interdit d'aller seul. Elle hésite. On ferait mieux de rentrer. Il se fait tard, je dois encore cuisiner. Ton père va s'inquiéter s'il ne me trouve pas. Il va se dire qu'il m'est arrivé quelque chose. De toute façon, même si j'apprends, quand est-ce que j'aurai le temps de faire du vélo? On essaiera une autre fois. D'accord? Je ne réponds pas. Je ne la regarde pas. Je regarde au loin. Déterminé. Ça va aller. On commence doucement. Toi, tu pédales et moi, je te tiens. Je pose ma petite main dans son dos. J'appuie légèrement pour l'encourager. Elle tente 2, 3, 4 fois de lever son pied gauche suffisamment haut pour le faire passer du sol à la pédale. En même temps, je pousse ma main sur sa main sur le guidon, l'autre encore dans le creux de son dos qu'elle a redressé. Une gouttelette de sueur roule sur ma tempe. De mes bras, je porte son poids, celui du vélo, et je contrebalance comme je peux les mouvements brusques de quand elle a peur. Je pense aux autres adultes qui s'occupent de leurs enfants, qui font attention à tout, et j'essaye de faire pareil. Dans ma tête, je liste 1000 fois les pires scénarios possibles. Je repère les pots de fleurs, les cailloux, les trous dans le sol, les voitures, les angles morts, tout ce qui pourrait la déstabiliser. On avance tant bien que mal. Je ne sais pas comment je tiens. Mes jambes peinent à suivre, mes paumes deviennent moites. Ma mère fait cette moue que je me surprends à faire aussi quand je me concentre. Les sourcils se froncent et la bouche change de forme, un peu en cœur. Tendue vers l'avant comme pour embrasser l'air, les commissures aspirées légèrement entre les dents, vers le bas, un peu triste. Le guidon tremble un peu, ma mère a l'air d'être en équilibre, je pense à la lâcher quand elle me dit « Tu me lâches pas, hein ? Tu me lâches pas ! Surtout, tu lâches pas ta maman !» Alors je tiens encore. Je garde ma main sur la sienne, l'autre n'est plus dans son dos, elle est accrochée à son bras et de tout mon poids, je tire pour la garder vers moi. La pulpe de mes orteils pousse contre le béton, mes cuisses se tendent. Je vois bien que si je lâche, elle tombe. Ma main glisse petit à petit sur les muscles de son bras. Je crois que je pleure, mais je transpire. « Ne me lâche pas ! Surtout, tu me lâches pas !» Son poids est revenu de mon côté. Un rien et je bascule en arrière. Mes genoux se plient. Les roues du vélo se rapprochent dangereusement de mes pieds nus contre la chaleur du béton. Je pousse. Je tire. Je laisse échapper un bruit serré. Je me rends compte qu'il va falloir lâcher. De toutes les façons, j'ai plus le choix. On va quand même pas y passer tous les deux. Et il faut bien qu'elle apprenne. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas. Ne me lâche pas, je te dis. Et j'ai envie de crier. J'ai envie de la pousser, mais tellement fort. De la pousser et lui dire, mais tu vois. Tu vois. Tu vois. Dans l'effort, je n'avais pas compris qu'on était déjà arrivé au bout du chemin. Elle me pardonnera si elle tombe. De toutes les façons, c'est trop tard. Je ne sais pas si elle me répète de ne pas la laisser. Je n'écoute plus tellement je suis soulagé. Je regarde mes petites mains tremblantes. Peut-être qu'elle crie. Je fléchis les genoux. Et en inspirant, je lève les bras au ciel. Peut-être qu'elle est tombée. Je m'étire, cambre le dos. Ou peut-être qu'elle a appris. Qu'elle réalise qu'elle va pouvoir partir seule, loin, sans avoir à ne se soucier de rien. Je me tiens sur les talons, la tête en arrière. Baisse les bras et tend les mains vers l'horizon. Le soleil va bientôt disparaître. Il faudrait rentrer avant la nuit. Des mois se sont écoulés. Je viens d'avoir 6 ans. Un soir, comme à son habitude, ma mère vient me dire bonne nuit. Elle porte sa robe de chambre couleur vieux rose. Sa peau brille. alors qu'elle n'est pas encore approché son visage du mien, je devine déjà l'odeur de sa crème à l'abricot qui colle quand elle m'embrasse. Les joues, le front, puis chacune de mes paumes que je garde toujours fermées la nuit entière pour ne pas que s'envolent ses baisers. Si tu les laisses s'envoler, c'est que mon amour n'aura pas été assez fort. Et elle me répète, toujours, comme pour se rassurer, pourtant, tu sais, je fais de mon mieux. Je lui dis que je sais. Et je lui promets moi aussi de faire de mon mieux. Dès qu'elle sort de ma chambre, les poings toujours fermés, n'utilisant que les pouces, je m'empare de mes peluches, mes coussins, mon duvet. Je les mets par terre et je m'y allonge, sur le dos. C'est une autre façon d'inventer un ailleurs. Partir camper sous des étoiles invisibles, s'entourer de forêts plus grandes encore que les montagnes. Dans l'obscurité, je vois les ombres ramper sous la porte. La lampe du couloir est encore allumée. Je fais quoi si elle meurt ? Ces temps, c'est la première question qui me vient quand je pense à ma mère. Je connais plein de gens qui sont horrifiés à l'idée de voir mourir leur mère. Ce n'est pas mon cas. Je sais qu'elle va forcément mourir un jour. Ce que je veux dire, c'est si elle meurt maintenant, alors que je suis encore dans la maison, que je suis condamné à rester ici, je fais quoi ? Des pas interrompent mes pensées, lourds, rapides, et mon père se met à hurler « Crache ! Mais crache, te dis !» J'entrouvre la porte, je vois la grande commode en bois massif, et son plateau en marbre sur lequel sont posées des boîtes à musique que ma mère collectionne. Des dizaines et des dizaines de boîtes, rectangulaires, grandes, plates, rondes, minuscules, aux bordures dorées, celles transparentes qui laissent voir leurs entrailles, ou en bois verni, fermé à double tour, auquel je n'ai pas accès. Je vois le bureau de mon père, en diagonale, au fond à gauche, et une partie de la salle de bain, pas la rose, mais la bleue, celle où il y a les toilettes, la douche et la pharmacie, à l'opposé de ma chambre. « Non, je veux pas. Je veux pas. Laisse-moi, je te dis. » C'est la voix de ma mère. « Non, je ne veux pas. J'en peux plus. Laisse-moi. » Debout derrière la porte, le poids de mon petit bras sur la poignée en or, je laisse la lumière entrer. Sans faire de bruit, je m'avance, l'œil d'abord ébloui dans l'entrebâillement. Ma mère est à genoux dans la salle de bain. Mon père lui tient la tête. Elle n'a pas sa perruque. Elle n'a que quelques cheveux. Fins, courts, clairs. Mon père plonge sa main dans sa bouche. « Crache ! T'as pris quoi exactement ? Crache ! » J'ai reculé de peur qu'on me voie. J'entends le bruit de la chasse d'eau. Je m'avance. Mon père laisse ma mère reprendre sa respiration avant de la relever avec beaucoup de tendresse. Je referme la porte en silence. Je baisse les yeux et ma gorge se noue. J'ai ouvert les mains. Je ne bouge pas. J'observe le vide où devrait se trouver l'amour de ma mère.
Rocky et de Robin. Robin, ça s'écrit avec un Y pour pas qu'on se dise que ça se prononce Robin. Parce que Robin, c'est pas vraiment un prénom, c'est plutôt un dead name. Rocky et Robin, à ma connaissance, c'est des prénoms qui, sauf si je me trompe, c'est des prénoms qui ne veulent rien dire, qui sont pas spécialement associés à une culture ou à une tradition, à part celle de la boxe et des oiseaux de nuit. Et Rocky et Robin, c'est un peu des noms qui sont apparus dans ma vie quand il a fallu commencer à trouver des noms. Et je me retrouve un an après mon coming out que j'ai fait à ma famille pour vraiment la dernière engueulade décisive avec ma mère. C'est cette engueulade qui a fait qu'elle devait comprendre que c'était soit ça, soit rien. C'est une engueulade au téléphone qui s'est conclue sur un soupir. Elle a fini par baisser sa garde et ne pas prendre ça comme un deuil, plutôt comme une espèce de première bouffée d'air pour prendre, comprendre en entrant dans une pièce qu'on n'a jamais visitée. Bon. D'accord. Mais Luce, j'aime pas. Je trouve ça moche. Tu veux pas t'appeler Camille ? Vous vous en doutez, ma mère ne côtoie aucune personne trans et aucun milieu queer, et qu'elle ne s'en rend pas compte que Camille, avec Sacha, c'est vraiment le nom de toute meuf trans sortie du placard. Mais Camille, évidemment, c'est le nom que j'aurais eu si j'étais né 6. Ce n'est bien heureusement pas ce qui s'est passé. Donc ma mère s'est retrouvée avec une enfant trans sur les bras qui lui propose un compromis. Ok maman, tu prends le temps qu'il te faut pour m'appeler par mon vrai nom. Et moi de mon côté, je demanderai à l'État de mettre Camille comme deuxième prénom sur mes papiers d'identité. C'est un peu comme si pour l'État et pour ma maman, je devenais 6 au second degré. Dans une idée un peu large, et il y en a vraiment plein d'autres, on peut vraiment en discuter là-dessus, je trouve que la poésie, c'est quelque chose qui nomme les choses. C'est ça son éternel pouvoir de genèse. Le monde pourra être épuisé jusqu'à la corde, qu'on aura à peine commencé à gratter le vernis des possibles de la langue et de tous les noms de l'univers. Nommer les choses, du coup, ça fait partie de mon métier, parce que je suis poétesse, et paradoxalement, je suis une quiche avec les noms. Je suis cette personne qui va te demander 10 fois comment tu t'appelles, alors que ça fait des années qu'on se voit. Il m'arrive d'oublier les prénoms de mes amis. Dans les jeux vidéo, c'est une catastrophe. J'ai une liste de persos sur des RPG avec des blases plus éclatées les uns que les autres. Du coup, j'ai trouvé l'idée que désormais tous mes avatars s'appelleraient juste Transcagole. Pour un avatar, ça va. Mais bon, c'est pas vraiment un vrai nom. C'est plutôt des noms d'oiseaux, plutôt que des noms d'enfants. Et je n'ai toujours pas dit à ma mère que justement, je voulais des enfants. Et ça me semble être un peu l'étape évidente, normalement, la fille qui vient dire à sa mère, enfant, tout ça. Et j'avoue éprouver une certaine hâte à voir son visage se déformer d'incompréhension à l'annonce de cette nouvelle. Que ce soit moi, la meuf 6, la meuf trans 6 au second degré, l'artiste dépressive polytraumatisée qui déboule grand sourire, repas de Noël, maman, je vais avoir des gosses. Je pense que l'acronyme PMA va se fusionner avec PLS. Je pense que plus personne dans ma famille ne va comprendre, mais du coup, c'est qui la mère, et puis le sperme de qui, et puis pourquoi pas le père, et puis la chatte d'où, et puis ça va être génial. Vraiment, ça va être génial. Il n'y a rien qui est lancé et on a déjà des histoires à faire dormir des gosses avant qu'ils ne soient livrés. Parce que je trouve que c'est aussi ça la poésie. Elle est là pour nommer, mais elle est aussi là pour raconter des histoires. Et moi, j'ai envie de raconter des histoires de maman. J'ai envie parfois de pouvoir avancer dans le temps et être dans les premières personnes à avoir une greffe d'utérus pour porter et mettre au monde mes deux enfants. Je sais que ça se fera pas comme ça, je sais pas comment ça se fera, mais je sais que ça racontera de belles choses et des choses moches, donc ça fera forcément de bonnes histoires. Je sais que c'est un scénario invraisemblable. Faire des enfants en 2023, c'est même irresponsable. Je trouve qu'aujourd'hui, se projeter enfant, je l'imagine un petit peu comme une sorte de mauvaise fin du Seigneur des Anneaux. Vous débarquez niveau 1, Frodon il a lâché l'affaire pour partir en lune de miel avec Sam, Sauron c'est le maître de la terre du milieu et plot twist Saruman c'est Darmanin. En prime. Vous vous coltinez deux mamans en territoire homophobe conquis, l'une est trans, l'autre est racisée. Salade, tomate, oignon, supplément de cheddar, un coca avec ça s'il vous plaît, on est parti pour une trilogie, un préquel et une série bonus sur Amazon Prime. C'est pas la bonne feuille. C'est une histoire impossible. C'est un scénario invraisemblable. C'est une idée irresponsable. C'est donc une histoire pour une meuf trans. Parce que c'est vrai qu'on est habitué à écrire des histoires impossibles. Rocky et Robin, c'est les premiers prénoms que je trouve que j'aime. Ce sont les noms de deux histoires qui ont déjà commencé à s'écrire. Ce sont des histoires qui s'écrivent souvent sur le bord du lit ou alors quand on est allongé sous la couette avec mon amoureuse. Elles s'écrivent avec des « Est-ce qu'ils dormiront avec nous ?» et puis « Quelles activités tu voudrais qu'ils fassent ?» et puis « C'est quoi les valeurs qu'il faut leur transmettre en priorité ?» et t'imagines s'il y en a un, il est hétéro. Ce sont des histoires qui finissent souvent en pleurs parce que c'est vrai que c'est impossible, tout ça. Tout est fait pour qu'on n'écrive pas ces histoires. Tout est fait pour nous dire qu'il n'y a aucun futur et qu'il n'y a rien à aimer dans les lendemains. C'est une de leurs nombreuses manières de parler de nécropolitique. J'avais une ex qui disait qu'il fallait faire des enfants parce qu'il faut des soldats pour la révolution. Ambiance, pouponnière, enfant soldat qui égorge des patrons avant de savoir parler. C'est tentant. Mais je trouve que c'est un peu sale quand même. Pour autant, ça rejoint quand même, d'une certaine manière, l'idée que beaucoup d'écrivaines ont déjà portée. C'est du harcèlement, ça m'énerve. C'est l'idée qu'il faut écrire la révolution. Il faut la nommer. Il faut nommer ce qui est impossible. Et c'est aussi ça le rôle de l'écrivaine. Rocky et Robin, ce sont les noms des histoires que nous voulons écrire avec mon amoureuse. Des histoires impossibles de maman. Et je vous souhaite une très bonne soirée.
du ZAL pour tout ça et buvons des coups.
Oui. Merci. 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 Merci.